Ah ben, oui, comme le dit avec beaucoup d'à-propos Philippe, pose-le là, je rangerai tout à l'heure. Peut-être en évitant trop de le chiffonner, donne-le une de ces...
Mademoiselle.
Voilà. Donc, aux cercles apocalyptiques, toujours dans notre étude de la préhistoire de l'Église, et nous abordons un chapitre extrêmement important, c'est celui justement de l'apport des découvertes de Qumran. Oui, peut-être qu'avant d'engager l'étude de la secte de Qumran, les Esséniens proprement dit, je vais dire quelques mots de généralité sur les cercles apocalyptiques. À la fin de l'époque perse, c'est-à-dire, si vous voulez, après l'époque de Néhémie et d'Ezra, après l'apparition du dernier des prophètes, c'est-à-dire Malachi, il y a eu cette pensée dans le judaïsme que l'Esprit avait été retiré d'Israël, l'Esprit Saint, l'Esprit de prophétie. Le livre de Malachi en particulier se termine sur cette parole « Souvenez-vous de la Torah que j'ai donnée à Moïse mon envoyé, les lois, les ordonnances qu'il vous a prescrites en Horeb, et voici je vous enverrai Élie avant la venue du grand jour du Seigneur, il ramènera le cœur des pères et des enfants, vous connaissez le texte. » C'était en quelque sorte, disent les rabbins, la fermeture des cieux. Les cieux se sont alors fermés, en sorte que le Saint-Esprit ne descendait plus. Le Saint-Esprit ne pouvait plus descendre. Depuis Malachi, il n'est plus paru d'inspiré, de prophète, d'homme de l'Esprit. On constate, dans toute la période de l'Ancien Testament, on en parlera pour ceux qui viendront au séminaire, une grande activité de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint était à l'œuvre, bien sûr, chez les prophètes, il était à l'œuvre également, par exemple, à l'époque des juges, qui étaient des hommes de l'Esprit, il était à l'œuvre parmi les nazirs, il était à l'œuvre parmi les rois, parmi les prêtres, etc. À partir de la fin de l'âge de l'Ancien Testament, de l'époque de l'Ancien Testament, l'Esprit est retiré d'Israël et les cieux se ferment pour vivre, pour connaître la volonté de Dieu, pour marcher selon la volonté du Seigneur. Le peuple d'Israël n'a plus que la parole écrite, la Torah. Et c'est pourquoi le dernier des livres de la Bible se termine par cette exhortation « Souvenez-vous de la Torah que j'ai donnée à mon serviteur Moïse sur le mont Sinaï, les lois et les ordonnances, qui, en attendant le moment où l'Esprit sera à nouveau rendu à Israël en la personne d'Élie qui reviendra, entre ce moment et puis maintenant, quelque sorte, vous n'aurez pour vous conduire, pour vous guider, que la référence à la Torah. » Et c'est pourquoi, à partir de cette période, les leaders spirituels du peuple ne sont plus les prophètes, mais ce sont les rabbins. C'est l'âge du rabbinisme qui commence. Le premier des rabbins, au sens moderne du terme, c'est Ezra. Ezra le scribe. Ezra, qui le premier ramène de Babylone les rouleaux de la Torah, et qui les rassemble donc dans ce genre de choses que vous avez là, et qui l'enseigne au peuple. C'est pourquoi dans la tradition juive, Ezra est considéré comme un second Moïse, comme celui qui rend en quelque sorte une deuxième fois la Torah à son peuple. Une Torah qui avait été oubliée à la fin de l'âge des prophètes et pendant toute la période de l'exil de Babylone, et qui redevient la base de la vie de la nation juive au moment où elle revient de son exil. Et Ezra rassemble autour de lui 120 sages qui forment ce qu'on appelle en hébreu la Knesset Agdola, la grande synagogue. Vous savez que c'est cette institution qui a donné l'existence du Parlement israélien moderne, qui s'appelle justement de ce même nom, la Knesset, et qui comprend 120 membres, autant qu'il y en avait à l'époque d'Ezra. C'est un décalque moderne, si vous voulez, de l'institution de la grande synagogue qui a été faite par Ezra. Et donc, à partir de ce moment-là, on va se mettre à étudier la Torah, non plus par, je dirais, une approche de l'Esprit-Saint, mais par une approche intellectuelle, l'étude. C'est l'étude qui remplace la révélation. Toutefois, il y a cette pensée que, au moment de l'âge messianique, quand le Messie viendra, les cieux s'ouvriront à nouveau, le Saint-Esprit descendra, et en particulier, il descendra sur la personne du Messie. Le Messie qui, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, c'est-à-dire loin, Mashiach, c'est loin, sera loin du Saint-Esprit, sera l'homme de l'Esprit par excellence, l'homme sur lequel l'Esprit reposera dans sa plénitude, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe au chapitre 11. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui dans ses sept manifestations, esprit de conseil, de force, etc. Vous connaissez le texte. Il y a aussi cette idée que, avant que le ciel ne s'ouvre pour permettre à l'Esprit de descendre sur le Messie, vous savez comment justement le Nouveau Testament accomplira littéralement cette espérance que nous trouvons dans les livres postérieurs du judaïsme, puisque quand Jésus apparaîtra, sera baptisé par Jean sur le bord du fleuve du Jourdain, le ciel s'ouvrira, le Saint-Esprit descendra sur lui, la voix se fera entendre, c'est ici mon Fils bien-aimé, etc. Mais il y avait aussi cette idée, basée sur l'interprétation justement du verset de Malachie et d'un verset de Michée 7, oui, quelque chose comme ça, que avant la venue du Messie, un dernier prophète paraîtrait. Ce prophète, ce serait Élie, je vous enverrai Élie. Et que cet Élie serait encore, en quelque sorte, celui qui ferait la brèche. Selon le verset de Michée 7 que j'évoquais tout à l'heure, où il est dit « Celui qui marche devant eux fera la brèche, et le roi pénétrera à sa suite. » Alors, il y avait cette interprétation à l'époque de l'intertestament, c'est-à-dire entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, que Élie serait celui qui ferait la brèche dans le ciel pour qu'à nouveau le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende, et que une fois la brèche ouverte, l'Esprit du Seigneur descendrait sur la personne du Messie et de là se répandrait sur le peuple tout entier. Tout le peuple de l'Éternel serait composé de prophètes et s'accomplirait la prophétie de Joël qui annonçait que l'Esprit du Seigneur serait répandu dans les derniers temps sur toute chair. Je passe sur tout l'accomplissement que nous trouvons de cette espérance, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, avec l'ouverture du ciel à la Pentecôte, et puis la référence explicite qui sera faite par Pierre, justement, dans son discours, à cette prophétie de Joël, qui était au centre, justement, des espérances juives, en relation avec les derniers temps. Donc, si vous voulez, le ciel, entre ces deux périodes, le ciel reste fermé. Il n'y a plus d'esprit, l'esprit prophétique n'agit plus. Néanmoins, il y a un certain nombre de gens qui se résignent mal à cette fermeture du ciel, qui pensent que l'étude, d'après les techniques d'exégèse rabbinique, qui prennent naissance à cette période-là, ne suffisent pas, et qu'il est très difficile de vivre sa foi sans une direction directe de l'Esprit-Saint. Et puisque il n'est pas possible de recevoir l'Esprit-Saint, puisque le ciel est fermé, il y a peut-être une autre solution de connaître les choses de Dieu directement dans la révélation, dans le domaine de la révélation, c'est soi-même de monter aux cieux. N'est-ce pas ? Et c'est la naissance de l'apocalyptique. L'apocalyptique qui va naître à cette période-là, la période de l'intertestament, si vous le voulez, ou si on peut employer une terminologie, l'époque du deuxième temple, va être une grande période à la fois du rabbinisme et à la fois de l'apocalyptique. L'apocalyptique va naître non pas dans le courant officiel du judaïsme, mais je dirais dans des cercles marginaux, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des sectes, sans que cette nuance, sans que ce terme ait la nuance péjorative qu'elle a aujourd'hui dans notre langue. Par exemple, les sectes juives que nous trouvons à l'époque de Jésus, et dont le christianisme était l'une d'entre elles, d'ailleurs, n'est-ce pas, à ses origines. C'était comme ça qu'elle était considérée. Paul le dira explicitement. Quand il s'expliquera devant le roi Agrippa, il dira « Je te confesse que je sers Dieu selon ce qu'ils appellent une secte. » Mais le mot « secte » à cette époque-là n'avait pas du tout la nuance péjorative qu'elle a aujourd'hui. Les sectes avaient parfaitement droit de citer dans le judaïsme. Le judaïsme de la fin de l'époque du Deuxième Temple était un judaïsme pluraliste qui admettait, à partir d'un consensus minimum, une variété d'interprétations possibles. Et par exemple, le christianisme, en tant que secte juive, avait parfaitement droit de citer et était parfaitement respecté, comme l'épisode, par exemple, de Gamaliel le montre dans le livre des Actes. N'est-ce pas ? Je ferme la parenthèse pour revenir à notre propos. Donc, un certain nombre de cercles vont ne pas accepter cette fermeture du ciel et se mettre à part pour chercher une révélation de Dieu. Et cette révélation de Dieu, cette révélation directe de Dieu, qui va être particulièrement forte dans les périodes d'épreuves nationales, et ces périodes d'épreuves nationales vont être au nombre de deux périodes essentielles. La première, c'est la révolte maccabéenne, c'est-à-dire au IIe siècle, à partir de 165 avant Jésus-Christ, au moment où le roi syrien Antiochus IV Épiphane va tenter d'helléniser de force ses sujets juifs. La première persécution religieuse de l'histoire va avoir lieu, n'est-ce pas ? Et un certain nombre de juifs, les Maccabées, les Chassidim, comme on les appelle, vont prendre les armes pour résister à cette tentative d'assimilation, préférant le martyr plutôt que d'abjurer leur foi. Bien entendu, dans ce temps d'épreuve où ils vont subir de terribles souffrances et de terribles épreuves, ils cherchent à connaître les secrets de Dieu, le secret de la rédemption, et d'aucuns se demandent si ce temps d'épreuve ne marque pas justement les douleurs de l'enfantement de l'âge messianique, comme on disait alors dans le judaïsme, et par conséquent que la venue du Messie est imminente. Et certains essayent d'essayer de comprendre si effectivement le Messie n'est pas à la porte et dans combien de temps en tout cas le Messie viendra. La deuxième période où l'apocalyptique va prendre naissance, c'est bien sûr la conquête romaine, en 63 avant Jésus-Christ. Et pendant toute la période qui suit cette date jusqu'à 70 après Jésus-Christ, la destruction du Temple, et même après, n'est-ce pas, jusqu'à, disons, 135 à peu près, la deuxième révolte juive, dans ce temps d'épreuve nationale, les spéculations apocalyptiques vont fleurir de la part de tous ces cercles qui attendent, comme le dit le Nouveau Testament, en parlant du vieillard Siméon, la consolation d'Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apocalyptique ? Je crois qu'il n'est pas inutile de s'y référer parce que l'apocalyptique recouvre ce que nous appelons un certain nombre de livres apocryphes, apocryphes du Nouveau Testament et de l'Ancien. D'autre part, les apocalypses apocryphes, ont aussi un certain nombre de points communs avec notre apocalypse canonique, c'est-à-dire l'apocalypse de Jean. Comprendre le courant apocalyptique, c'est comprendre un peu mieux, non pas toute l'apocalypse de Jean, je n'ai pas cette prétention, loin s'en faut, mais en tout cas, c'est comprendre un petit peu mieux cette apocalypse, et ça permet d'éviter des âneries et des bêtises que l'on dit beaucoup sur cette apocalypse de Jean, et c'est aussi comprendre le christianisme. Car le christianisme, à son origine, est un mouvement apocalyptique. La prédication de Jésus est une prédication apocalyptique. Et quand je dis apocalyptique, il ne faut pas donner à ce terme le sens que nous lui donnons d'habitude, c'est-à-dire d'un ensemble de phénomènes terribles, terrifiants, bouleversants, les montagnes qui s'écroulent, le feu du ciel qui tombe. Ça, c'est une interprétation un peu moderne, je dirais, du mot apocalyptique. L'apocalypse, dans la version originale, c'est donc cette possibilité d'une révélation, bien que le ciel soit fermé. Alors, il faut ici distinguer le voyant du prophète. Le voyant succède au prophète. Il existe dans l'Ancien Testament déjà un livre, ou plutôt les derniers livres prophétiques ont un caractère apocalyptique, certains d'entre eux du moins. Déjà, avec la prophétie de Joël, il y a une certaine tendance apocalyptique dans le livre de Joël, mais le livre prophétique où l'apocalyptique est le plus net, c'est dans le livre de Zacharie, en particulier, où le voyant, le prophète, en ce qui concerne Zacharie, est enlevé au ciel. Il a, par exemple, la vision du chandelier d'or. Il a la vision du grand prêtre Josué qui se tient dans les lieux célestes. Il a la vision des lieux célestes. Il pénètre dans les lieux célestes. Il voyage dans les lieux célestes. Il voit un certain nombre de choses qui sont au-delà du monde visible, au-delà du monde sensible. Alors que le prophète, lui, avait une révélation de Dieu, des choses qui étaient bien des choses de ce monde, n'est-ce pas ? Les choses qui allaient arriver, les événements, mais qui étaient des événements terrestres. Le voyant, lui, a une vision des choses célestes, et à la lumière de ce qu'il voit dans le ciel, eh bien, il se rend compte qu'il y a une interaction entre les choses célestes et les choses terrestres, et que les choses terrestres sont aujourd'hui ce qu'elles sont à cause de ce qui se passe dans le ciel. Et vous voyez tout de suite qu'on retrouve ça dans l'Évangile. Par exemple, lorsque les apôtres reviennent de la mission dans laquelle Jésus les a envoyés, tout heureux en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis », Jésus dira « Je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair ». Jésus explique le succès terrestre qu'ils ont eu sur les puissances démoniaques au fait qu'un événement s'est passé dans le ciel, savoir que Satan, en quelque sorte, commence à tomber du ciel. Déjà, son royaume chancelle, son autorité spirituelle est contestée dans le ciel. N'est-ce pas ? Alors, ce qui se passe dans le ciel explique ce qui se passe sur la terre. Si le peuple juif est aujourd'hui captif de ses ennemis, s'il est sous la coupe des Romains, ou s'il est sous la coupe des Syriens, n'est-ce pas ? S'il est persécuté, si un certain nombre de gens sont mis à mort pour leur foi, etc., ça pose une question. Pourtant, nous sommes fidèles. Le fait que nous soyons justement persécutés prouve que nous sommes fidèles. Nous n'avons pas renié la foi. Pourquoi ? Malgré le fait que nous soyons fidèles, Dieu permet-il que son peuple reste sous la domination des ennemis ? Alors, justement, il y a les secrets. Les secrets de Dieu, les choses cachées. Nidgalot en hébreu. Et le voyant est celui qui voit les choses cachées, qui comprend le pourquoi des choses. Pourquoi les choses sont ce qu'elles sont? Pourquoi c'est incompréhensible humainement? Parce qu'il y a des choses secrètes qui vont être révélées. Et le voyant est celui qui a la révélation des choses secrètes. Bien entendu, ça implique que le voyant pénètre dans une autre dimension. La dimension de ce qu'on appelle le ciel. Et l'Apocalypse est basé justement sur cet enlèvement du voyant au ciel. Ça, c'est un phénomène général. Tous les livres apocalyptiques commencent par le récit, non plus de la vocation du prophète, vous savez, la vision inaugurale du prophète, Ésaïe 6, je vis le Seigneur sur un trône très élevé, etc., ou bien Jérémie, là, qui voit une branche d'amandier, bon. Là, au contraire, l'Apocalypse commence toujours par le récit de l'enlèvement de l'auteur au ciel. Reprenez par exemple l'Apocalypse de Jean, qui explique comment, se trouvant dans l'île de Patmos, il vit le ciel s'ouvrir et il est enlevé dans le ciel. Paul aussi fera le récit d'une expérience semblable quand il dira qu'il fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Ça, c'est une notion courante des Apocalypses de l'époque, n'est-ce pas ? Et il entendit des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. C'est pas ? Donc il y a toujours cette pensée de l'enlèvement de l'auteur, de celui qui écrit. Et précisément là, l'Apocalypse est aussi un phénomène différent de la prophétie, dans ce sens que la prophétie était d'abord quelque chose de parlé, de proclamé, et non pas d'écrit. Ce n'est qu'à la fin de l'âge prophétique, au moment où l'Esprit-Saint est retiré d'Israël, que l'on écrit les prophéties pour que justement le souvenir s'en conserve, comme on a vu pour le Nouveau Testament. N'est-ce pas ? Mais au départ, les oracles prophétiques étaient parlés. Ils étaient proclamés à haute voix et ensuite appris par les disciples par cœur, selon les lois de la transmission orale que nous avons évoquées l'an dernier ensemble. Par contre, le voyant, l'apocalypticien, lui, reçoit dès le départ l'ordre d'écrire dans un livre. Et qui plus est, un livre qui souvent va être caché, scellé. Un livre secret, si vous voulez. Il est très, très fréquent, par exemple, que, souvent c'est un ange qui s'entretient avec l'apocalypticien, que ce dernier lui dise, eh bien, voilà, tu vas écrire ces choses, et tu vas sceller le livre que tu auras écrit, et tu le cacheras dans un certain endroit. Et il restera scellé jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, eh bien, tu le sortiras, et à ce moment-là, tu en donneras connaissance au peuple. N'est-ce pas ? Et il peut se passer des siècles et des siècles avant que la révélation qui a été contenue dans le livre puisse être révélée. Il y a un temps de la révélation. Et là, je vous renvoie aussi à notre apocalypse canonique, l'apocalypse de Jean, où le voyant, n'est-ce pas, voit un livre scellé de sept sceaux qui est amené à l'agneau, et l'agneau le dévoile, l'agneau le décèle, l'agneau révèle les secrets qui sont cachés dans le livre et qui s'accomplissent au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'ils sont lus, qu'ils sont proclamés à haute voix par l'agneau. C'est la même pensée qu'on trouve justement avec les apocalypses. Vous lisez aussi qu'à un certain moment, Jean reçoit un petit livre qu'il doit manger, n'est-ce pas ? Et puis ensuite qu'il doit proclamer. Et puis ensuite qu'il écrit, sous la dictée de l'ange, les choses qu'il voit. Il en reçoit l'ordre dès le départ. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui seront. Et à un moment, il y a sept tonnerres qui parlent, et Jean va écrire ce qu'ont dit les sept tonnerres, et l'ange lui dit, ce qu'ont écrit les sept tonnerres, scelle-le, et ne l'écris pas. Parce que c'est quelque chose qui doit rester secret jusqu'au temps de la fin. Ce sont là des notions qui sont tout à fait courantes dans les apocalypses de l'époque. Vous trouvez ça, par exemple, dans les apocalypses tels que l'Assomption de Moïse, les testaments des 12 patriarches, le livre d'Enoch, etc., etc., sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Alors, donc, la prophétie et l'Apocalypse, alors à l'inverse de la prophétie, est quelque chose qui est écrit. Maintenant, l'Apocalypse, c'est aussi un phénomène qui est une réflexion, ou une révélation plutôt, enfin qui se donne comme une révélation, parce que beaucoup d'apocalypses, bien sûr, la plupart des apocalypses, mis à part notre apocalypse canonique, ne sont que des fictions. N'est-ce pas ? Mais se donnent en tout cas comme des révélations. Et se donnent comme une révélation sur le sens de l'histoire. Souvent, l'apocalypse est une vasque fresque qui reprend les événements historiques depuis les origines jusqu'à la fin. Il est faux de dire que l'Apocalypse est quelque chose qui est uniquement orienté vers la fin. Bien sûr, la fin, c'est finalement l'essentiel, si j'ose dire, parce que c'est la fin qui donne tout son sens à l'histoire des hommes. Mais en fait, l'Apocalypse est une révélation sur le sens de l'histoire. Et elle commencera souvent par, justement, les origines, tout simplement. Les grands apocalypticiens qu'on trouve dans les apocalypses apocryphes, ce sont par exemple les patriarches. Vous avez par exemple une apocalypse d'Adam. Vous avez une apocalypse de Noé. Vous avez, bien entendu, le grand apocalypticien. L'apocalypticien par excellence, c'est Enoch. Celui qui a été enlevé au ciel, donc le type même du voyant. Et là, pourquoi a-t-il été enlevé au ciel ? Parce que justement, là, il a reçu de Dieu des secrets qui ne devaient être révélés qu'à la fin des temps. Et quand nous lisons l'épître de Jude, par exemple, nous voyons que cette idée n'est pas tout à fait fausse. Et que précisément, Enoch a prophétisé en fonction des temps de la fin. Vous avez, bien entendu, un autre personnage aussi qui est un des favoris des apocalypticiens de cette époque, c'est Melchizedek. Précisément aussi cet homme mystérieux, n'est-ce pas, que l'on affirme avoir été enlevé au ciel. Vous avez le patriarche Sem, le fils de Noé, qui lui aussi serait l'auteur d'une apocalypse. Vous avez les 12 patriarches, c'est-à-dire les fils de Jacob, notamment le patriarche Lévi. Vous avez Moïse, bien entendu. Il était tout à fait normal que Moïse, l'homme de la révélation, celui dont la mort est mystérieuse, qui ait été l'objet lui aussi d'une révélation de type apocalyptique. Et il n'est pas jusqu'à des prophètes comme Jérémie, par exemple, qui eux aussi n'aient été crédités d'une semblable vision. Et par exemple, on trouve des échos de cette tradition dans le Nouveau Testament lorsque Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme, au dire des gens ?» Et les disciples répondent « Certains disent que tu es Jérémie. » Pourquoi ? Parce que justement, on pensait que Jérémie n'était pas mort dans certains milieux apocalyptiques juifs. On pensait que Jérémie avait été enlevé au ciel et qu'il réapparaîtrait aussi à la fin des temps pour annoncer la venue du Messie. Alors, il est tout à fait logique que certaines personnes aient vu dans Jésus, n'est-ce pas, Jérémie, ce Jérémie qu'ils attendaient. Donc, un homme qui souvent est un grand homme du passé, qui a vécu aux origines du monde et qui peut expliquer, n'est-ce pas, le sens de l'histoire. Pourquoi la chute? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi le déluge? Pourquoi l'épisode de Babel? Et ceci parce que justement, lui dit le Seigneur, l'histoire converge vers un thème. Et souvent, le patriarche, à l'instar par exemple de la révélation de type apocalyptique déjà que recevra Abraham dans le chapitre 15 du livre de la Genèse, au moment de l'alliance entre les animaux partagés, où le Seigneur lui annonce le destin futur de son peuple. En termes très courts et très sobres dans la Genèse, bien sûr, qui est très loin de toutes les enjolivures et de toutes les spéculations des apocalypses apocryphes, mais qui sert quand même de prototype à toutes ces spéculations-là, n'est-ce pas ? Dieu dit à Abraham, au moment où il tombe dans un profond sommeil, et souvent le sommeil, n'est-ce pas, est le moyen par lequel le voyant est enlevé au ciel. Par exemple, Adam, c'est au moment évidemment où il tombe dans le profond sommeil au sujet de sa côte qu'il va avoir sa révélation apocalyptique, n'est-ce pas ? Donc Abraham, pour revenir à lui, tombe dans un profond sommeil et le Seigneur lui annonce ce qui va se passer en lui disant « Sache que tes descendants seront captifs dans un pays qui ne sera pas le leur et qui seront opprimés pendant 400 ans. Mais au bout de cette période-là, ils reviendront dans ce pays-ci avec de grandes richesses parce que l'iniquité des Cananéens n'est pas arrivée à son terme. » Donc souvent les patriarches, les pères du peuple, sont ceux qui, avant de mourir, c'est souvent à l'heure de la mort d'ailleurs, que dans la vision apocalyptique, les patriarches reçoivent la révélation de ce qui va arriver à leurs descendants, comme Jacob sur son lit de mort, par exemple, prophétisera sur ses 12 fils. Et d'ailleurs, cette vision, n'est-ce pas, cet épisode, ce récit de la mort de Jacob et de sa prophétie avant sa mort, comme celle de Moïse d'ailleurs, qui lui est équivalente, servira de base à bien des apocalyptiques, n'est-ce pas ? On va spéculer sur les prophéties qui sont faites à chacun de ses 12 fils, chacune de ses 12 tribus. Et à leur tour, n'est-ce pas, à l'heure de la mort, les patriarches sur lesquels il a été prophétisé vont aussi prophétiser sur leurs descendants. Pourquoi ? Parce que dans la vision biblique, n'est-ce pas, le mourant, celui qui meurt en Dieu, en quelque sorte, est doué d'une vision dans l'au-delà, il voit déjà dans l'au-delà. Et souvent, justement, la vision apocalyptique est une vision testament. Et c'est par exemple l'expression qui reviendra souvent dans les livres apocalyptiques, le livre testament. Au moment où il va mourir, au moment où il va partir d'une manière extraordinaire, comme Enoch par exemple, ou bien comme Melchizedek, qui aussi selon la tradition de l'époque est enlevé au ciel lui aussi, n'est-ce pas ? Ou Moïse, par exemple, il y a un livre apocalyptique qui s'appelle l'Assomption de Moïse, dont on retrouve des passages dans le livre de Jude auquel je faisais allusion tout à l'heure. Donc, certains apocryphes ne sont pas totalement dépourvus d'inspiration à ce niveau-là, mais évidemment, le seul critère pour dire ce qui peut être inspiré à ce niveau-là, c'est ce que nous trouvons dans les réminiscences et les allusions qui lui sont faites dans le Nouveau Testament. Et maintenant, n'allons pas conclure, n'est-ce pas, que parce que le livre de l'Assomption de Moïse est cité par Jude, tout le livre de l'Assomption de Moïse est inspiré. Il n'y a que cette partie-là à laquelle le livre de Jude fait allusion qui est inspirée. Car Jude, lui justement, conduit véritablement par l'Esprit Saint, a pu discerner ce qui était inspiré et ce qui ne l'était pas. Bon, ça c'est une parenthèse que je ferme, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, c'est à l'heure de la mort, disais-je, ou au moment de son départ, que l'homme de Dieu va, en quelque sorte, voir dans l'au-delà, déjà, ce qui reste invisible, pénètre déjà dans le ciel, dans lequel il va rentrer tout à l'heure, ou dans quelques temps plus tard, au moment où il va mourir, et est capable de transmettre à ceux qui restent sur cette terre les instructions qui vont leur être utiles pour l'avenir et pour leurs descendants. Et c'est la raison pour laquelle, disais-je, souvent, n'est-ce pas, ces visions s'appellent testament. Testament des 12 patriarches, testament de Lévi. Et je disais tout à l'heure que notre Bible n'est rien d'autre finalement qu'une vaste apocalyptique, que la plus grande de toutes les apocalypses. Car c'est aussi un livre qui est une vision de l'histoire, qui part du commencement et qui va jusqu'à la fin, qui révèle le sens de l'histoire à la vision de Dieu, à la vision des événements célestes. L'histoire n'est pas simplement le résultat, je dirais, d'un certain nombre de lois ou de composantes que les historiens modernes sont capables de mettre en évidence. Mais au-delà, justement, de ces lois historiques terrestres, elles sont régies par des réalités célestes que seule la révélation de Dieu est capable de manifester. Que seul l'homme de Dieu, l'homme inspiré par Dieu, est capable de mettre en évidence. Et qui est quelque chose d'extrêmement précieux pour ceux qui vivent dans le monde à ce moment-là, parce que, eh bien, l'Apocalypse est à ce moment-là, ou le Testament, si vous le voulez, est quelque chose qui permet de se situer par rapport à cette histoire-là. Par exemple, le peuple qui souffre sous la domination romaine sait qu'il est dans cette situation-là parce qu'il y a des événements dans le ciel qui imposent cela. Mais que le triomphe des méchants sera de courte durée. Et qu'en fin de compte, c'est le royaume de Dieu qui s'établira. Et que ces souffrances du temps présent sont en train de préparer l'avènement du royaume messianique. Et que par conséquent, il suffit de persévérer. Et le message des apocalypses, c'est toujours le message de la persévérance. Le message des prophètes, c'est le message de la repentance et du retour à Dieu. Le message des apocalypses, c'est le message de la persévérance et de la fidélité. Et vous retrouvez ça dans notre apocalypse canonique. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il suffit de tenir ferme un peu de temps, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés du moment présent, qui sont logiques, qui sont normales, quand on comprend l'histoire à la manière dont Dieu la comprend et dont Dieu la révèle, à cause du péché de l'homme au commencement, à cause du péché d'Adam, à cause de la chute, à cause du fait que, eh bien, le monde d'à présent, ce monde-ci, est sous la puissance du malin. Mais au travers de toutes ces choses-là, c'est le règne de Dieu qui se prépare. Et ce règne de Dieu ne peut venir qu'au travers d'un certain nombre de convulsions, qu'un certain nombre de difficultés que les apocalypses appellent les douleurs de l'enfantement messianique, mais qui vont déboucher sur le royaume de Dieu. Alors, je dirais que la vision de apocalyptique est une vision aussi à la fois pessimiste et optimiste. C'est une vision pessimiste d'abord parce que le monde est considéré, ce monde-ci, il y a une différence entre ce monde-ci et le monde qui vient. Ça, c'est une notion apocalyptique qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, sous l'expression du monde et le royaume. Ce monde-ci, il est mauvais, il est perdu, il est déchu, et il n'y a rien à faire pour le changer, il n'y a rien à faire pour l'améliorer. Quoi qu'on fasse, n'est-ce pas, il ira en devenant de plus en plus pire, de plus en plus mauvais. Et la seule chose que peuvent faire les enfants de Dieu, c'est de sortir de ce monde, c'est de se mettre à part pour devenir déjà les membres du monde qui vient. et à partir desquels le Seigneur va reconstruire ce monde. Alors s'ils font cela, les enfants de Dieu doivent savoir qu'ils vont connaître des temps difficiles. Ils vont être persécutés par les puissances de ce monde-ci, qui sont en fait dominées par Satan. Mais s'ils persévèrent et s'ils tiennent ferme jusqu'au bout, ils hériteront l'héritage qui a été promis aux rachetés. C'est tout le thème de... C'est un thème néo-testamentaire à fond. Vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez sans difficulté. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'Évangile et le Nouveau Testament est profondément ancré dans l'apocalyptique. N'est-ce pas? Dans le courant apocalyptique. Sans qu'encore une fois, ce courant apocalyptique soit justifié en soi. Il y a des choses énormes, des choses que le Nouveau Testament condamne. Mais vous voyez, il y avait tout ce climat d'attente dont le Nouveau Testament, auquel le Nouveau Testament rend témoignage. Tout le peuple était dans l'attente, par exemple, au moment de l'apparition de Jean-Baptiste. Et cette attente, elle se basait sur cette pensée. Maintenant, c'est un, l'apocalyptique et l'apocalypse, d'une manière générale, est aussi une réalité résolument optimiste. Car s'il est vrai que, en quelque sorte, la décrépitude du monde est irrévocable et irréversible, on ne peut rien y faire, l'avènement du royaume de Dieu, lui aussi, est irréversible, est inévitable. En fin de compte, les ennemis de Dieu auront beau faire ce qu'ils voudront, en fin de compte, Dieu aura le dernier mot. Et l'apocalyptique témoigne, et en particulier culmine avec cette idée force de la résurrection. La résurrection des morts est une des idées forces de l'apocalyptique. Vous remarquerez que le thème de la résurrection des morts est assez discret dans l'Ancien Testament. On n'en trouve que des allusions assez peu nombreuses. Par contre, c'est un terme qui est très très fort souligné dans les apocalyptiques, qui est finalement le terme ultime du triomphe de Dieu. Car le triomphe de Dieu ne peut pas être total si, comme le dira Paul, le dernier ennemi n'est pas détruit, et le dernier ennemi, c'est la mort. Et c'est pourquoi déjà, les apocalypticiens sont des gens qui, en quelque sorte, sont confrontés avec la mort, mais précisément reçoivent à l'heure de la mort cette révélation qui a comme ultime la résurrection des morts, en quelque sorte pour eux-mêmes aussi, pour leur donner cette puissance d'affronter cette heure terrible de la mort. On trouve, disais-je, dans l'Ancien Testament, un livre qui, alors lui, est franchement apocalyptique et qu'on peut qualifier d'apocalyptique, c'est le livre de Daniel. Je pense que, à partir de ce que j'ai dit, vous reconnaissez que l'on peut classer le livre de Daniel comme, avec l'Apocalypse de Jean, les deux livres apocalyptiques canoniques de la Bible. L'Apocalypse de l'Ancien Testament, le livre de Daniel, et l'Apocalypse du Nouveau Testament, le livre de Jean, l'Apocalypse de Jean. D'ailleurs, dans la tradition juive, Daniel n'est pas considéré comme un prophète, contrairement à ce qui se passe dans nos Bibles. Le livre de Daniel n'est pas classé parmi les livres des prophètes. Mais il occupe une place à part et Daniel est vraiment un voyant. Vous retrouverez tout ce que je vous ai dit au sujet de Daniel, c'est-à-dire l'enlèvement de l'auteur dans le ciel, l'ordre d'écrire qui lui est donné, la vision de l'histoire depuis le commencement jusqu'à la fin, par exemple la vision de la statue d'or, n'est-ce pas ? Il y a toujours un point de départ, il y a toujours un commencement et il y a toujours la fin. La fin qui est le triomphe définitif du Seigneur. La vision pessimiste de la tête d'or qui ensuite se dégrade en la poitrine d'argent, qui se dégrade elle-même dans le ventre et les cuisses de la statue d'airain pour aboutir, vous vous souvenez, aux orteils d'argile. Donc la vision pessimiste, le monde se décline, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, la vision optimiste au contraire, celle justement du triomphe définitif et inévitable du Seigneur, la pierre qui se détache sans secours d'aucune main, qui frappe les orteils de la statue et qui devient une grande montagne, quelque chose dans un mouvement qui est absolument irrésistible. Le thème de la persévérance des saints, au travers des épreuves, n'est-ce pas ? Ceux qui tiendront pendant ce temps mystérieux de 1290 jours, puis de 1335 jours, heureux ceux qui parviendront à tenir pendant cette période-là, n'est-ce pas ? Et ensuite le thème de la résurrection des morts, n'est-ce pas, qu'on trouve esquissé d'une manière pleine et entière dans le livre de Daniel. Donc Daniel est le prototype de toutes les apocalypses ultérieures, c'est la plus ancienne, bien sûr, et c'est celle qui sert de modèle à toutes les apocalypses apocryphes. Donc, si vous voulez, il y a cette opposition entre le monde d'en bas, le monde qui est en train de passer, qui est en train d'être détruit, et le monde d'en haut, qui lui va faire irruption à la fin pour remplacer le monde d'en bas qui disparaît. Par exemple, vous trouvez dans certaines apocalypses des expressions comme celle-ci, ce monde a vieilli, il arrive à sa fin, il est au moment de sa décrépitude la plus totale, etc. Mais en même temps, n'est-ce pas, un monde d'une jeunesse éternelle va lui succéder, va le remplacer, etc. etc. Ça, vous trouvez ça, par exemple, dans le livre d'Enoch. Maintenant, on pourrait dire aussi que l'Évangile est aussi apocalyptique dans ce sens. Par exemple, il y a dans les Évangiles synoptiques, les trois Évangiles synoptiques, des discours de Jésus qui sont franchement apocalyptiques, qui évoquent justement les événements qui seront ceux de l'avènement du royaume de Dieu. D'autre part, il y a aussi cette vision du sens de l'histoire. C'est particulièrement vrai chez Matthieu. Il y a toujours cette référence, n'est-ce pas, ou même chez Jean. Hein, commencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Voici le livre des engendrements de Jésus-Christ. Et ça commence avec Adam, pour arriver jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Et puis en même temps, cette pensée, si vous voulez, du livre testament, qui est scellée, qui est incompréhensible jusqu'à la mort du testateur, jusqu'à la mort du voyant, celui qui en a fait la révélation. Et vous trouvez dans les évangiles ce que les théologiens, ce que les églises appellent le secret messianique. Le fait que Jésus ne soit pas connu pour ce qu'il est pendant sa vie terrestre, même de ses disciples, ses frères, à plusieurs reprises, il nous a dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Si Pierre s'élève jusqu'à l'intuition de ce qu'est Jésus dans la fameuse déclaration de Césarée, quand il lui dit « Tu es le Christ, tu es le Messie, autrement dit le Fils du Dieu vivant », Jésus s'empresse de préciser « Ce n'est pas par la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas par une connaissance humaine que tu t'es élevé jusqu'à la connaissance de ce mystère, mais c'est par une révélation du Père qui est dans les cieux. » N'est-ce pas ? Et en fait, il faut la mort et la résurrection de Jésus pour que soudain, le mystère de Jésus soit révélé, apparaisse, on puisse le comprendre. Et soudain, le livre qui était fermé va s'ouvrir. Souvenez-vous, par exemple, de l'entretien de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. C'est tout à fait caractéristique. Jésus, commençant par la Torah, par Moïse, autrement dit, par les prophètes et par les psaumes, c'est-à-dire les trois divisions de la Bible, testament hébraïque, leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Le livre qui était scellé, en quelque sorte, est décellé et soudain ouvert. Le livre devient un livre ouvert. Et c'est le thème de l'Apocalypse de Jean, la Torah, celle que vous avez là, scellée de sept sceaux, qui est incompréhensible, jusqu'à ce que l'agneau vienne en révéler le sens, vienne en ouvrir le sens. Mais cela n'est possible qu'après sa mort, parce que l'agneau est un agneau immolé. Et il garde, n'est-ce pas, le marque de son immolation. C'est vraiment un testament. Il n'est compréhensible que parce qu'il y a eu mort du voyant et révélation dans les temps qui sont les temps de la fin, par une révélation particulière du Saint-Esprit, les temps de la fin qui, dans la vision du Nouveau Testament, commence à la Pentecôte. Et soudain, tout ce qui était scellé, tout ce qui était caché, devient clair sur le sens de l'histoire, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça y est, on est dans le ciel, là. Celui qui lit, il est dans le ciel, il est transporté dans cette réalité céleste, dans ce monde d'en haut, qui rejaillit sur le monde d'en bas. Dans cette vision du royaume, soudain le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur Jésus au moment de son baptême. Et la voix se fait entendre, c'est ici mon fils bien-aimé. Et puis le témoignage que Jésus rend à Jean-Baptiste. Si vous voulez savoir, c'est lui l'Élie qui devait venir. C'est lui qui fait en sorte que le ciel s'ouvre. Et qui fait que, eh bien maintenant, il n'est plus possible, il n'est plus nécessaire finalement d'avoir quelqu'un qui aille chercher en quelque sorte dans le ciel les choses de Dieu, mais elles sont là à la portée. Maintenant, il y a une autre caractéristique de l'Apocalypse, c'est le langage codé, le langage caché, le sens caché. L'Apocalypse va parler en images plus ou moins claires, souvent obscures d'ailleurs, et ça commence avec Daniel, ça commence déjà avec Zacharie, les visions qui ont besoin d'être une explication, les quatre chevaux, n'est-ce pas, le chandelier d'or, ne comprends-tu pas ce que sont ceux-là ? Demande l'ange qui parle à Zacharie, non, mon Seigneur, et il faut une explication. Le sens est caché. Il y a des visions, il y a des symboles. Alors ces symboles, c'est le symbole d'objet, par exemple, mais c'est aussi le symbole de nombre. La symbolique des nombres occupe une grande place dans l'apocalyptique. On trouve déjà ça dans Daniel, n'est-ce pas, les nombres mystérieux de 1000. Notre Apocalypse, bien sûr, on retrouve ça, les septaines des fléaux, des coupes, des trompettes, les sept églises, le nombre de la bête, le mystérieux nombre de 666, les trois ans et demi au cours desquels la bête règne et le temple de Dieu est foulé aux pieds par les nations, etc. Il y a donc tout un ensemble, toute une symbolique, tout un langage caché. Et ceci pourquoi ? Pour deux raisons. La première, parce que comme nous disions tout à l'heure, l'Apocalypse est un livre scellé. Ça veut dire que c'est un livre qui n'est pas compréhensible à l'homme, qui ne doit être compréhensible qu'à un temps donné, qu'à un temps précis, un temps fixé par Dieu, le temps où le livre sera décellé. Ou bien alors qu'il ne peut être compris qu'après la mort du testateur, du voyant. Et puis enfin, je dirais qu'il y a des raisons aussi beaucoup plus prosaïques, c'est que l'Apocalypse est un livre subversif, au point de vue politique. Car l'Apocalypse apparaît dans un moment, comme je disais tout à l'heure, d'oppression nationale. Et c'est un livre qui a pour but de stimuler le courage du peuple de Dieu et l'appeler, comme nous disions tout à l'heure, à tenir ferme dans l'épreuve, donc à résister au pouvoir en place, au pouvoir anti-Dieu qui est identifié avec la puissance de l'heure. Et bien entendu, on comprend aisément que le but de l'Apocalypse, s'il est un but de résistance au pouvoir politique de l'heure, ne va pas précisément dans le sens de la politique du pouvoir. Parfois, certaines apocalypses vont jusqu'à demander la résistance armée au pouvoir en question. Par conséquent, le pouvoir, traque ce livre subversif, traque ceux qui le répandent, traque ceux qui l'écrivent. Et par conséquent, pour échapper précisément à cette traque, l'auteur du livre est obligé de le coder. Vous savez, comme quand on fait des messages secrets pendant la guerre, n'est-ce pas, les espions ou les résistants communiquent entre eux avec des codes. Des codes qui ne sont compris que par ceux qui sont dans la résistance, dans le mouvement de résistance. Mais c'est un petit peu la même chose. Les codes, les clés d'interprétation, elles sont transmises de bouche à oreille à ceux qui sont des initiés. L'Apocalypse est un livre pour initiés, que ne peuvent comprendre ceux qui, en quelque sorte, ont été illuminés par la grâce de Dieu et qui ont résolu de se mettre dans le camp des fils de la lumière, de résister aux méchants, Et à ce moment-là, ils vont être initiés par deux choses. Par l'Esprit de Dieu lui-même, qui va les éclairer, qui va leur rendre compréhensible ce qui est incompréhensible au Fils des ténèbres. Et là, vous retrouvez exactement les paroles de Jésus. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées. Dieu est celui qui cache ses secrets à ceux qui sont ses ennemis, mais qui les révèle à ceux qui sont ses amis. Et souvent, cette révélation va être transmise aussi par ceux qui sont déjà des initiés, qui vont initier les autres. Et là, vous retrouvez, par exemple, ce que l'apôtre Paul lui dit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, quand il écrit à ces derniers, en leur disant au sujet d'Antichrist et des événements de la fin, donc un thème éminemment apocalyptique, il va leur dire, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses quand j'étais au milieu de vous. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai enseigné oralement à cette époque-là. Vous savez très bien ce que je veux dire quand je vous parle de ce qui va le retenir jusqu'à la fin, qui l'empêche d'apparaître. Ce n'est pas la peine que j'écrive là-dessus, parce que vous savez très bien, je vous en ai parlé. Je ne veux pas y revenir par écrit, parce que ma lettre, elle pourrait tomber entre les mains des agents du pouvoir. Puis vous seriez inquiétés, et moi aussi. Alors, des choses aussi subversives, je me contente de vous les transmettre de bouche à oreille. Alors, il y a souvent cette parole dans les Apocalypses que celui qui peut comprendre, comprenne. Et c'est une parole qui revient dans la bouche de Jésus, et c'est une parole qui revient dans notre Apocalypse de Jean. Jean écrira aussi dans ses lettres, les trois lettres qu'il nous a laissées, dans notre Nouveau Testament, de cette même manière, quand il parlera de l'Antichrist. Il dit, vous savez que un Antichrist vient, mais vous savez qu'il y a déjà aussi plusieurs Antichrists. Mais je ne veux pas écrire là-dessus, avec de la plume et de l'encre. J'espère bientôt venir vous voir, et je vous expliquerai toutes ces choses-là de vive voix. C'est plus prudent. Alors, vous allez me dire, ben oui, c'est bien gentil, mais nous, on n'était pas là à ce moment-là, quoi, hein. Ben oui, c'est tout le problème, justement. C'est pourquoi, quand on commence à lire l'Apocalypse de Jean, par exemple, ou plutôt un livre sur l'Apocalypse de Jean, quand vous en lisez un, Daniel, pareil, alors vous avez tout compris. Vous avez tout compris sur le retour de Jésus. Vous savez tout ce qui va se passer. Quand vous lisez un deuxième, vous commencez à vous poser quelques questions. Et quand vous lisez un troisième, vous ne comprenez plus rien. Et plus vous en lisez, moins vous comprenez. Parce que les clés, nous les avons perdues. Les clés d'interprétation de l'Apocalypse et des Apocalypses de ce moment-là, nous les avons perdues. Nous ne savons pas à quoi correspondaient les bêtes. Nous ne savons pas à quoi correspondaient les cornes. Nous ne savons pas à quoi correspondaient les nombres symboliques. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, on est obligé de spéculer. Mais on est vraisemblablement à côté. Alors, on va dire, mais alors, on ne peut plus comprendre les apocalypses. Ben non. Je crois qu'il faut arriver à cette conclusion-là. Jusqu'au temps marqué. Et vous lisez ça dans Daniel. Au temps de la fin, ceux qui auront l'intelligence comprendront. Au temps marqué. Il y a des temps où Dieu révèle certaines choses. Dieu les révèle de deux manières. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Par l'accomplissement des événements qui sont annoncés. Et puis, aussi, je dirais, par les découvertes qu'on peut faire sur le plan scientifique dans ce domaine. Et c'est pourquoi l'étude des apocalypses apocryphes est très importante. Pour notre compréhension de l'apocalypse, des apocalypses canoniques. Parce que là, en comparant ces apocalypses avec nos apocalypses à nous, nos apocalypses canoniques, nous pouvons reconstituer un certain nombre de clés. Nous pouvons redécouvrir, d'une certaine manière, n'est-ce pas, par exemple dans les découvertes de Qumran, j'en parlerai la prochaine fois, bien, nous savons maintenant un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de notions apocalyptiques qui nous sont devenues claires, ne serait-ce que par rapport aux évangiles. Et l'apôtre dit, plutôt le voyant dit dans Daniel, n'est-ce pas, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Si bien qu'il est vain de vouloir essayer de comprendre les choses avant le temps. Je lisais l'autre jour un commentaire de Godet sur l'Apocalypse. Or, vous savez, je crois que Godet est un des hommes les plus sérieux en milieu évangélique en ce qui concerne l'exégèse et la compréhension. Je me régalais un petit peu à la perspective de lire ce commentaire de l'Apocalypse de Godet dans un des bouquins que tu m'as vendu là. Et j'étais déçu, abominablement déçu. Tout Godet qu'il soit, il patouille abominablement. Parce qu'il n'avait pas les clés, parce que ce n'était pas le temps. Par contre, je disais, l'étude des apocalypses apocryphes nous permettra d'approcher certains nombres de notions. Certains nombres de notions nous permettront, non pas de comprendre, mais en tout cas d'éviter les erreurs bêtes et grossières que l'on fait beaucoup, y compris dans les milieux évangéliques, je dirais presque surtout dans les milieux évangéliques, car les milieux évangéliques sont ceux qui se penchent le plus justement sur ce genre de problème. Et parfois avec une curiosité qui est malsaine. Donc, le Livre Testament, disais-je, qui doit être révélé au temps de la fin. Vous savez, par exemple, que ça vient d'une... C'est parti justement de cette pensée qu'on trouve dans Jérémie, quand le Seigneur lui donne l'ordre d'écrire un certain nombre de choses et de cacher les manuscrits dans des jarres de terre, pour que le souvenir s'en conserve longtemps. Et il y avait cette pensée qu'effectivement... il fallait conserver les écrits apocalyptiques dans des jarres. En 1948, vous savez que l'on a retrouvé, sur les bords de la mer Morte, des jarres de terre qui, conformément à ce qui est écrit dans le livre du prophète Jérémie, contenaient les fameux manuscrits de la mer Morte. Parmi ces manuscrits de la mer Morte, il y a tous les manuscrits de la Bible, tous les textes de la Bible qu'on connaissait, etc. Et il y a aussi des écrits apocalyptiques, dont certains sont assez troublants. Par exemple, l'un d'entre eux annonçait la guerre des six jours. Avec précision. Alors, je ne dis pas qu'il s'agit là de livres qu'il faut considérer comme inspirés obligatoirement, mais nous pouvons reconnaître qu'il pouvait y avoir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, certains éléments d'inspiration, de révélation dans certains documents apocryphes. Je dis certains éléments. Et en tout cas, qui peuvent être intéressants, disais-je, pour pouvoir comprendre les clés. Ça, je crois que c'est surtout le grand intérêt de l'étude des documents apocryphes. Bon, je pense qu'on pourrait peut-être arrêter là pour ce soir, parce que l'heure tourne. Bien. Est-ce que vous avez quelques questions à poser sur ces problèmes de l'apocalyptique juive ? Non. Les apocalypses sont considérées que toutes les apocalypses sont considérées comme apocryphes par les juifs. Le judaïsme orthodoxe a rejeté l'apocalyptique parce que l'apocalyptique, comme nous le verrons, la vision apocalyptique a entraîné des catastrophes sur le peuple juif. C'est elle, par exemple, ce sont de ces cercles apocalyptiques que sont surgis les Zélotes, qui, en 66, ont levé l'étendard de la révolte contre les Romains et ont entraîné la destruction du temple. Ce sont des cercles apocalyptiques que sont surgis aussi les résistants qui ont levé l'étendard de la deuxième révolte juive en 135 après Jésus-Christ avec le faux messie Bar Corba et qui ont entraîné alors la dispersion, car la dispersion des juifs dans le monde ne date pas de 70 comme on le croit, mais de 135. C'est pas l'éviction des juifs du pays d'Israël. Et donc c'est la plus grande catastrophe. Et à partir de ce moment-là, les rabbins ont interdit toutes les spéculations apocalyptiques et messianiques. Ils ont interdit de spéculer même sur la personne, l'identité du Messie, de réfléchir sur... Et par exemple, à partir de cette période-là, dans les écrits rabbiniques, il n'est presque plus fait allusion au Messie jusqu'à nos jours. L'espérance messianique reste quelque chose de... non pas de secret, je dirais, mais de... C'est pareil d'oral, quoi. Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus en parler jusqu'à ce que le Messie vienne. C'est trop dangereux. Trop dangereux. On espère, on attend la venue du Messie, mais comment il viendra, quand il viendra, qui il sera, etc. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler.
Mais alors justement, si on ne doit plus en parler, dans la perspective du judaïsme, comment est-il perçu dans le christianisme
Eh bien, le christianisme a eu un grand succès au milieu juif au début, comme le montre le Nouveau Testament, justement, parce que il était profondément enraciné dans cette espérance. Il répondait à toutes ces espérances-là. Et il est très facile de voir justement comment les évangiles sont écrits pour répondre à cette espérance. Je l'évoquais tout à l'heure, n'est-ce pas, les cieux qui s'ouvrent, etc., la résurrection des morts, le testament du Messie, etc. Bon, Jésus, donc, le premier ressuscité des morts, celui qui a donc déjà accompli cette espérance-là, les derniers temps sont commencés. Il faut lire tous les discours de Pierre, par exemple, le jour de la Pentecôte, le discours des apôtres, dans les milieux juifs, y compris pour l'apôtre Paul, par exemple, dans les synagogues dans lesquelles il prêchait, qui reprennent tous ces thèmes-là. C'est très intéressant de faire une étude à ce niveau-là. Tous ces thèmes-là sont repris par les prédications apostoliques primitives. Mais à partir du moment où la catastrophe s'abat sur le peuple juif en 70 et en 135, le christianisme est rejeté, entre autres choses, pour cette raison-là. Et c'est pourquoi la chute de Jérusalem en 70 est une terrible catastrophe pour le christianisme, autant que pour le judaïsme. Pour le judaïsme, ça va sans dire, on le comprend aisément. Pour le christianisme, c'est moins évident. Et pourtant, ça l'est. Parce que c'est tout le témoignage en milieu juif qui devient impossible à partir de 70, ou très difficile, et complètement impossible après 135. Et pour les chrétiens juifs, c'est une situation extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bon, eh bien, nous verrons la prochaine fois le catholicisme. On continuera sur le catholicisme.
Les thèmes de l'Apocalypse, c'est les 2-7 sceaux, la Torah, je m'en prie.
Comment dirais-je, qui tombe du ciel comme ça. Mais on part toujours d'un texte de la Bible. Par exemple, j'ai parlé des patriarches, par exemple de Melchizedek. On trouve ça dans l'Épître aux Hébreux. C'est une vision, c'est une spéculation, enfin c'est pas une spéculation pour ce qui est de l'Épître aux Hébreux, mais ça ressemble à une des spéculations typiquement apocalyptiques. Bon. L'hébreu, l'homme biblique, n'est pas un homme logique. Au sens cartésien du terme, au sens platonicien du terme. C'est pas la logique de Socrate. Donc notre logique, que nous avons héritée de la Grèce. Mais l'homme biblique raisonne par analogie, ou je dirais par un certain nombre de constatations. Bien. La Bible nous parle de Melchizedek, mais elle ne dit pas un certain nombre de choses sur Melchizedek. En général, quand un homme est présenté dans la Bible, il est toujours présenté avec son pédigré. Un tel fils d'un tel. Et puis un tel, donc, un tel roi régna l'année tant, etc. Il régna tant d'années, le nom de son père était ceci, le nom de sa mère était ceci. Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, il fit ce qui est mal, etc. Il fit ceci, il fit cela, etc. Il mourut à l'âge de tant, etc. Son fils un tel régna sa place. Bon. Vous n'avez pas ça en ce qui concerne Melchizedek. C'est le seul personnage biblique où son pédigré n'est pas donné. Alors, nous allons dire, bah, c'est comme ça parce que c'est comme ça, quoi. Mais l'homme biblique lui dit, non, pas du tout. Si son pédigré n'est pas donné, c'est qu'il y a une raison. Et il faut découvrir cette raison-là. Pourquoi, justement, est-ce que son pédigré n'est pas donné ? Eh bien, parce que, justement, c'est un homme exceptionnel. Il n'a ni père ni mère. Il n'a pas d'origine. Et il n'a pas de fin. C'est un homme qui est éternel. Il a toujours existé. Et il existera toujours. Et dans certains textes apocalyptiques, n'est-ce pas, le Melchizedek est l'image du Messie. Et vous retrouvez ça dans l'Épître aux Hébreux. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, la Torah, il faut la comprendre. Non seulement par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle ne dit pas. Et comment peut-on comprendre ce qu'elle ne dit pas? Par une révélation. C'est le sens caché, les choses secrètes. Alors évidemment, il y a le sens que tout n'importe qui peut découvrir en la lisant, tout simplement. Et puis il y a les choses que Dieu révèle à ses serviteurs, à ses voyants, à ceux qui l'envoient. Mais ça, c'est scellé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le révèle. Il faut que le Saint-Esprit le révèle. Jésus, je disais tout à l'heure, explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et leurs yeux étaient empêchés de comprendre, jusqu'à ce qu'ils soient morts et ressuscités. Et là, les écailles des yeux tombent, par exemple l'histoire de Paul, tout à fait caractéristique aussi, n'est-ce pas ? Et lui qui connaissait les Écritures par cœur, mais il n'avait pas compris le sens caché, jusqu'au moment où ses écailles tombent des yeux, où il a la révélation de Jésus sur le chemin de Damas. À ce moment-là, il revoit la Bible, il la recomprend, mais d'une manière tout à fait différente, dans une vision nouvelle, dans un éclairage nouveau que lui donne le Saint-Esprit. Et dans ce sens, l'Ancien Testament est déjà une apocalypse, parce qu'il contient un certain nombre de choses qui sont cachées. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, dit Jésus, et tu les révèles aux enfants. Si quelqu'un ne naît pas nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est encore une notion profondément apocalyptique. Ce monde-ci, le monde d'en bas, bon, ça il est perceptible à l'homme naturel. Mais pour qu'il connaisse le monde d'en haut, il faut une transformation, il faut une révélation de Dieu, et il faut une transformation qui lui permette d'accéder justement aux choses de Dieu. Alors, le texte, le rouleau dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, c'est cette Torah. Cette Torah qui est écrite d'une manière cachée aussi, et que Jésus révèle. Lui, l'agneau de Dieu. Lui, celui qui a reçu la véritable interprétation de la Torah. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Voilà le véritable sens. Le sens qui n'est pas perceptible sans cette révélation. Et que Jésus, en quelque sorte, dévoile au fur et à mesure que, en quelque sorte, on avance dans la vie avec lui. C'est ça que l'Apocalypse montre au travers de cette image. De cette image du livre scellé de sept sceaux. Philippe, tu veux dire quelque chose ?
Je crois qu'en grec, c'est ce que tu viens de dire, le mot apocalypse, c'est dévoilement.
Dévoilement, exactement.
Apocalypse.
Oui, apocalypsis. Révélation, dévoilement de quelque chose de caché qui soudain devient clair. Mais qui n'est pas clair comme ça, il faut des conditions. Il faut toute une préparation, il faut toute une communion avec Dieu pour pouvoir comprendre. Dieu ne révèle pas les secrets à n'importe qui comme ça. C'est ça l'idée forte de l'Apocalypse. Il faudrait dire aussi un mot de la pseudépigraphie, ce qu'on appelle la pseudépigraphie. C'est un mot barbare qui veut dire souvent que les auteurs des apocalypses, apocryphes en particulier, écrivaient bien sûr, vous l'avez bien compris, sous un faux nom. C'est évident que ce n'est pas Adam qui a écrit l'apocalypse d'Adam, ce n'est pas Noé qui a écrit son apocalypse, etc. C'était des gens qui... c'était des faux, quoi. Hein. Et en ceci, notre apocalypse est tout à fait différente parce qu'elle est signée. Moi, Jean, il ne se donne pas du tout comme un grand personnage du passé, mais moi, Jean, Daniel, il en a de même.
Mais comment les Juifs recevaient l'apocalypse d'Adam,
Ah ben, on considérait que c'était vraiment Adam qui l'avait donné au commencement, qui l'avait enterré dans des jarres de terre, et puis que ça avait été trouvé. Vous avez la même chose avec les...
C'était quelqu'un qui
prétendait avoir retrouvé un texte ancien, et d'autant plus sacré qu'il était ancien. Si on avait vraiment un texte écrit par Adam lui-même, bah, évidemment, ça lui donnait une autorité, et une valeur que s'il avait écrit Monsieur Tartampion, moi j'ai eu cette révélation-ci, ça n'aurait pas eu la même valeur automatiquement. Quoi. Vous avez la même chose avec les Mormons. Les Mormons ont exactement cette pensée que, vous savez, Joseph Smith, le prophète des Mormons, aurait reçu la révélation d'un ange, l'ange, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un nom assez cocasse d'ailleurs, cet ange-là, enfin peu importe, qui lui a dit d'aller dans un certain endroit et qui trouverait des plaques de cuivre sur lesquelles sont écrites les secrets de Dieu, écrits dès le commencement, et que lui, Joseph Smith, était appelé à manifester dans ces temps qui étaient les temps de la fin. C'est la même pensée.
Le monde des saints du dernier jour.
Oui, c'est ça, les saints du dernier jour.